Décembre 2017, un brouillard humide recouvre un Paris transi par le froid. Un colosse d'un mètre 92 s'extrait d'un taxi. À cette heure matinale, l'avenue des Champs-Élysées n'est pas encore envahie par les touristes. Son éternelle casquette vissée sur la tête, Pouba, le duc de Boulogne, se dirige vers le siège d'Easy Trading, la société qui gère Uncut, la marque de vêtements du rappeur. Laurent ?
Ouais, j'arrive, faut qu'on parle.
Laurent Habitboul, c'est le gérant justement d'Easy Trading. Lui et son frère Jérôme collaborent avec le rappeur depuis le début d'Uncut en 2004. Si jusqu'ici tout fonctionne à merveille, le ton de Booba au téléphone laisse planer une menace diffuse sur la suite.
Je voudrais que la collab s'arrête ici.
Quoi ? Mais attends, viens, on va discuter.
Non, pas la peine.
Pour moi, les limites sont atteintes et le projet s'éloigne de mes attentes. Je voulais ma propre marque et porter mes propres sables. Là, j'ai juste l'impression d'avoir refilé la poule aux œufs d'or à deux de mes.
Bon bah voilà, je vais pas vous faire un dessin. Booba, Uncut et les frères Habitboul, c'est terminé. Une page se tourne. Certains se seraient contentés d'un laconique communiqué de presse pour annoncer la nouvelle, mais pas Booba. Le rappeur, qui ne manque pas une occasion de faire le show, clash d'ailleurs avec humour et insolence ses anciens collaborateurs sur les réseaux sociaux. Les frères Habitboul ont disparu. Je répète, les frères Habitboul ont disparu. Ils seraient entre la Thaïlande et l'Angleterre. Si jamais vous les croisez, dites-leur que je m'inquiète. Pas besoin de plus pour ravir les fans et faire le buzz. Père de famille, sportif accompli, patron de label, conférencier à Harvard et serial entrepreneur, à 41 ans, Booba et tout ça à la fois. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces du plus grand rappeur français qui a fait de son nom une marque et qui en 20 ans est devenu un entrepreneur avec des dizaines de millions de CA annuels.
Bienvenue sur l'apprenti. Alors avec l'apprenti, vous allez apprendre et vous inspirer des meilleures histoires d'entreprises et d'entrepreneurs. Et vous allez faire ce chemin avec moi tous les jeudis. Je m'appelle Laurent Brouois, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et de celles qui entreprennent.
Le 9 décembre 1976, bien avant d'être Booba, Elie Yaffa, de son vrai nom, naît à Boulogne-Billancourt d'une mère française, ancienne femme de ménage, et d'un père sénégalais, videur en boîte de nuit. Mais très vite, Elie va connaître la séparation de ses parents. Élevé à Meudon, il se retrouve avec sa mère à Boulogne-Billancourt après le divorce de ses parents. Le jeune garçon se construit au sein d'une famille pauvre et divisée.
Votre maman était secrétaire ?
Ouais.
Vous dites que vous viviez avec le strict minimum ?
Ouais.
Et vous êtes dit, je veux...
C'est-à-dire des vêtements et à manger.
À l'école, c'est à peine mieux. La fracture sociale lui saute aux yeux. Lui, le seul noir au milieu de blancs. À la maison, faut bien le dire, l'atmosphère est pesante. Lorsqu'il évoque sa famille, Booba ne mâche jamais ses mots pour parler de son enfance. Un père noir, une mère blanche, un grand-père raciste, un cousin drogué. Je vous laisse évidemment imaginer l'ambiance au repas de famille. Il faut s'enfuir, par n'importe quel moyen. Elie se met à passer beaucoup de temps dehors. Son lieu de prédilection, le Forum des Halles à Paris, place iconique des bad boys des années 80. Il y traîne avec toute une bande à son image. Un grand bol d'air frais et un sentiment de liberté totale que seule l'amitié adolescente procure. Mais Elie reste lucide, il sait que ça ne peut pas durer. Ses ambiances de colonies de vacances, ses promesses d'amitié éternelle, c'est comme le soi-disant amour entre ses parents. Du bruit et du vent. Au lieu de se jeter à corps perdu dans les relations humaines, Booba, très jeune, entretient des passions bien à lui. Fou de sport, il commence par la danse, puis se laisse prendre par l'athlétisme et la boxe thaï. Au même moment, il commence à s'intéresser de près à la musique. Le hip-hop, bien sûr, qui commence à percer en France. Elie devient fan, notamment des groupes de rap comme les Sages Poètes de la Rue.
Mais il n'y a pas que le rap français qui le fascine, il y a aussi le rap américain. La chance lui sourit à l'âge de 15 ans et Lee s'envole pour Détroit, aux États-Unis, afin de passer l'année scolaire dans une famille d'accueil. Son séjour est une véritable révélation. Tout ce qu'il a vu pendant son enfance à la télé, les séries, les clips, les films, tout existe. Cet univers qu'il affectionne depuis toujours sans le connaître, c'est les US, le continent de tous les possibles. Mais c'est l'école qui finit par le convaincre définitivement de la réalité de son rêve américain. En France, la question cruciale et nécessaire de l'immigration est, à l'époque, peu évoquée. À Détroit, il peut choisir ses matières et opte même sans hésitation pour l'histoire de l'esclavage. La découverte d'une communauté afro-américaine avec ses leaders et ses relais d'opinion le fascine. Alors qu'en France, il est le seul noir dans une classe de blancs, il découvre un pays où il peut exister en tant qu'homme noir. Et il rentre en France, bouleversé à jamais par cette expérience et déterminé à faire entendre sa voix. Une voix qui complexe pourtant le jeune adulte qu'il est. Alors, quand il rentre dans la musique, c'est d'abord comme danseur hip-hop dans le collectif Coup d'État Phonique formé dans les années 90. À cette époque, on le connaît sous le nom de Tic Tac, un nom qui laisse bientôt tomber au profit de Booba, diminutif de son cousin sénégalais Boubacar, mais aussi évidemment une référence au petit ourson du dessin animé. Un rappeur donc, mais plus doux et sensible que ce qu'il laisse transparaître. Un garçon blessé. Booba, c'est l'enfant traqué, celui qui devra toujours se battre pour prouver sa valeur. Le noir au milieu des blancs, quoi. En attendant, il perçoit dans le rap français l'industrie naissante qu'il est déjà aux États-Unis. En 1994, il pose son premier morceau, Exercice de style, sur la mixtape Sortir du tunnel, avec les pointures de l'époque comme Son Moda et La Clica. À cette occasion, il rencontre Ali, avec qui il crée le groupe qui le fera exploser, Lunatic. Le groupe apparaît pour la première fois sous le label Beat de Boule en 1995 sur la compilation de Cut Killer Freestyle, la première cassette freestyle de rap français. Confronté à la fabrication plus que rudimentaire du disque, Booba et Ali aspirent pourtant à autre chose. Les deux rappeurs veulent enregistrer un vrai son. Et là, tout s'arrête. En 96, le rappeur est condamné à 4 ans de prison. Pris dans une embrouille, il agresse des chauffeurs de taxi avec une arme à feu. Il sort finalement au bout de 18 mois. Son désir de rapper reste intact, mais ses textes sont habités d'une gravité nouvelle. De son séjour en tôle, Booba tire un morceau, La Lettre. Un texte cru et réaliste, un des plus forts qui ait jamais été écrit sur l'univers carcéral. Le morceau sort en 2000 dans l'album Mauvais œil de Lunatic. Un album paru dans le label indépendant 45 Scientifiques, monté par Booba et Ali pour l'occasion. Alors il faut dire que lorsqu'ils ont proposé le projet, les maisons de disques ne se sont pas précipitées. Et c'est un euphémisme. Franchement, on est désolé, vous êtes bon, mais comment dire, vos morceaux sont quand même très violents, agressifs, c'est sombre, inquiétant. Enfin, noir quoi, tout est noir là-dedans. Hors de question de s'arrêter là. Quand on le bloque, Booba emprunte des routes parallèles. Des routes qui mènent à Rome et surtout au succès. L'album est ainsi certifié disque d'or. En 2002, Booba signe son premier album solo, Temps mort, chez 45 Scientifiques. Lui aussi certifié d'or. C'est avec cet album que le rappeur va commencer à toucher un plus large public. Sa carrière solo est lancée. Lunatic est dissous. Pour reprendre la main sur l'entièreté de ses projets, Booba aime maîtriser toute sa chaîne de valeur. Il quitte 45 Scientifiques pour créer son propre label, Talak Records, Et là, il enchaîne les succès. 11 mai 2004, Panthéon. Deuxième album solo, certifié disque d'or. 2006, West Side. 2008, 0.9. 2010, Lunatic en tête du top des albums français. Disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus à ce jour. En tout, Booba produit 10 albums et en vend plus de 2,7 millions. Ces chiffres le classent à la 5e place des rappeurs qui ont vendu le plus d'albums de l'histoire du rap français. Sa carrière est remplie de succès et le public est au rendez-vous. D'ailleurs, le Duc est le premier rappeur français solo à remplir Bercy. 9 de ses 10 albums se sont vendus à 2,5 millions d'exemplaires. Une ascension fulgurante pour un homme qui ne veut, je cite, « même pas devenir rappeur ». Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Si Booba affirme ne pas vouloir vivre de sa musique, c'est parce qu'il l'envisage comme un business plutôt que comme un art. Si Booba comprend la musique, il comprend surtout ce qu'est l'industrie musicale. Il convient ne pas se contenter du rôle d'ouvrier dans cette industrie. D'ailleurs, il aime l'argent, comme il le dit.
C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça.
Dès lors, il ne s'agit plus seulement de composer, mais de gérer son propre label, ses propres productions et de signer des talents. Il s'inspire du modèle américain où souvent les musiciens et les hommes d'affaires sont une seule et même personne. Et pas question de couvrir un seul domaine. Il faut se diversifier, être rappeur, producteur, éditeur et tout ça à la fois évidemment. Et c'est ce qui se passe avec Talak Records. Son label compte au total 5 albums produits et 4 mixtapes de Booba ainsi que l'album solo de Mala, son acolyte. Partagé à 50-50 avec Universal, c'est sur ce label que Booba fait émerger les talents de demain. En musique, si tu as la vision et l'expérience, tu percevras chez un artiste des choses que la plupart des autres ne verront pas. Et j'ai un talent pour ça. Ça peut paraître présomptueux, mais c'est vrai qu'il a l'œil. En 2016, il parie sur MHD pour assurer ses premières parties, alors que celui-ci est encore livreur de pizza. Il a repéré dans l'attitude du jeune homme l'énergie et le flow d'un rappeur en devenir. Également repéré par Booba, Damso, le rappeur belge, voit sa carrière décoller lorsque le Duc le fait intégrer le label 92i en 2015. Booba et Damso, c'est une longue histoire passionnelle. Après quelques échanges sur WhatsApp, B2O, le Duc, invite Dams sur le morceau Pinocchio. En moins de 60 secondes, Damso déploie un flow froid et irrévérencieux qui marque les esprits. Évidemment, Booba signe et le succès est phénoménal. Damso est extrêmement reconnaissant. Le grand Booba lui tend une main alors que personne ne veut de lui. Mais ce que donne le Duc de Boulogne, Booba peut vite le retirer. Business oblige, quelques milliers d'euros plus tard, les deux maîtres du rap se clashent mutuellement sur les réseaux, pour le plus grand bonheur des fans. Et aussi pour le plus grand bénéfice de la marque Booba, véritable empire commercial du rap français. Si Booba a une longueur d'avance financière sur tous les autres rappeurs français, c'est grâce à l'écosystème de marques qu'il a construit autour de lui. Car on ne parle pas seulement d'un label qu'il a créé, mais aussi de marques. Et le premier lieu que Booba veut investir, c'est les médias. À l'instar de nombreux rappeurs, il ne veut plus dépendre de Skyrock. Vous savez, la radio qui fait la pluie et le beau temps dans le petit monde très lucratif du rap français. Il veut aussi son propre média et ce sera OKLM, au calme. Le déclic s'est fait à la salle de sport entre deux soulevés d'haltère. Booba rencontre Teddy Truchot, un entrepreneur français qui a fait fortune avec Glidden, le site de rencontres extra-conjugales. Hein, pour rappel, hein, ceux qui connaissaient Gliden, plein de petites pubs qui ont fait scandale dans le métro parisien notamment. Le rappeur cherche des conseils pour lancer un World Star Hip-Hop à la française. Alors, World Star Hip-Hop, c'est quoi ? C'est le média mainstream du rap depuis 2005. Alors, le projet plaît à Teddy, qui met alors son savoir-faire et son carnet d'adresses à disposition du Duc. Le site est lancé en décembre 2014 et démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue, avec plus de 300 vidéos reçues par jour. Comme dans tout ce qu'il fait d'ailleurs, Booba veut tout maîtriser. Lui et son équipe passent des journées entières à trier les vidéos pour les mettre en ligne. Comme il n'a pas peur de rêver toujours plus gros, le rappeur dote son site d'une radio, puis d'une chaîne télé en mai 2016. Grâce à ça, on peut offrir une chance à toute personne qui a du talent, se félicite Booba. Booba est partout, Booba contrôle tout. Et parfois, il prend des décisions assez radicales, voire totalitaires. En novembre 2017, par exemple, il fait annuler une émission à la dernière minute parce qu'il est en froid avec Kennedy, le rappeur qu'il avait invité. Mais peu importe, OKLM marche, plaît et grossit. Une quinzaine de salariés et après Free, Bouygues, Orange et les bouquets Canal+ en Afrique, la chaîne est bientôt accessible sur la SFR Box. Bref, c'est l'explosion. Et pourtant, depuis mars 2020, plus aucun contenu sur OKLM. Rien. Silence radio. On peut légitimement se demander ce qu'il en est des grands idéaux comme la représentation des artistes qu'on voit peu, la promotion de nouveaux talents et la liberté totale prônée par le média maintenant qu'il est réduit à l'état de fantôme. Mais ce n'est pas un cas isolé dans les business de Booba. Sa marque de vêtements Uncut connaît également une trajectoire funeste après un succès détonnant. Créée en 2004 avec Vigen, un styliste new-yorkais, la marque de streetwear aux coupes larges et au logo imposant s'impose vite dans l'univers du lifestyle urbain. En plus, c'est la première marque streetwear made in France. Toute l'identité de la marque repose sur un équilibre subtil entre la rue et le luxe. Et même jusqu'au nom d'ailleurs, Uncut. On peut le traduire par « non coupé », ce qui fait référence à la pureté d'une drogue.
À la base, quand j'ai fait Uncut, le concept c'était faire des vêtements que moi je mettrais. À la base, c'est pour moi.
Bien évidemment, le Duc ne porte que du Uncut lors de ses apparitions importantes. Le chiffre d'affaires monte à 15 millions d'euros 10 ans plus tard, d'après le Figaro. Et pourtant, là encore, tout se termine. Un jour humide et froid de décembre 2017, Booba claque la porte de sa marque. Uncut, OKLM, on peut légitimement se demander pourquoi Booba s'aborde ses propres marques. Problème d'ego ? Ou plus simplement, la peur d'être dépassé par ses propres créations ? Ou alors, en éternel entrepreneur, le besoin d'explorer de nouveaux business ? Mais ce n'est rien. Ce n'est rien, il n'y a pas de problème, car il reste le whisky. Oui, parce que Booba a aussi sa marque de whisky. Ah, voilà, normal. En même temps, c'est sans doute l'alcool le plus cité par les rappeurs, toutes nationalités confondues. Charles Daucourt, héritier de la maison de spiritueux éponyme, passe d'ailleurs à ce moment-là la majeure partie de son temps aux États-Unis. Il réside d'ailleurs à Miami, dans le même immeuble qu'Eli Yaffa, plus connu évidemment sous le nom de Booba. De dégustation en dégustation, les deux Frenchies décident d'élaborer ensemble leur whisky. Les deux compères vont mettre 7 ans à créer LE whisky dont Booba fait amplement la promotion. Ils ont d'ailleurs nommé leur élixir Duc, D-U-C, comme le 7e album du rappeur. Avec tous ses succès, Booba obtient ce qui lui tient à cœur, la reconnaissance. Une reconnaissance apportée sur un plateau par le magazine GQ qui le nomme Businessman de l'année 2016. Un businessman qui arrête la chanson pour se consacrer aux affaires. L'autre fois, je regardais les statistiques des gens qui me suivent sur Instagram. Ça va de 14 à 44 ans. J'ai l'impression d'avoir traversé le temps,
comme Highlander, vous savez, et vu tous mes concurrents mourir. Peut-on imaginer plus belle réussite pour un rappeur que celle de constater qu'il est partout et à tout âge reconnu? Mais Booba réussit un tour de force encore plus grand. Sa musique transcende les milieux sociaux. D'aucuns le comparent même avec une once de pédanterie au poète Antonin Artaud ou à Jean Genet. Pourtant, son instinct de businessman ne le trompe pas. Il voit les jeunes générations arriver en force. Il est temps pour lui de donner une nouvelle direction à sa carrière. C'est ainsi qu'au début de l'année 2021, après l'annonce de sa sortie de son album Ultra, il décide de mettre fin à sa carrière de rappeur. Ultra est donc son dernier album. Mais arrêter le rap n'est plus un tabou pour ce serial entrepreneur. Le rap, faut bien se le dire, c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, Booba envisage de créer pour d'autres artistes. Égal à lui-même, il ne se fixe aucune limite, il veut s'ouvrir à tous les genres. Un peu à l'image du rap finalement. Un genre poreux qui puise son inspiration dans des univers très différents, allant du classique au rock en passant par le jazz. Booba ne se gêne pas d'ailleurs pour clamer haut et fort que si un artiste fait de la country et qu'il est excellent, il le signera sans hésiter. Il lance pour ça d'ailleurs le label 7 Corp avec Anne Cibron, sa manageuse derrière lui depuis toujours, pour produire de nouveaux artistes de musique urbaine. Il crée même un second label, la Piraterie Musique. Aller toujours de l'avant, c'est la maxime de Booba, ne jamais regarder en arrière. Même si certains se souviennent du passé pour lui. Oxmo Puccino retrouve dans son grenier parisien les notes manuscrites de Puck Fiction, le feat mythique de la compile L432, sorti en 1997. De sa voix sombre et rocailleuse, Booba entrait dans l'histoire du rap. Oxmo sentait le potentiel d'un grand rappeur, mais reconnaît qu'il n'aurait jamais imaginé l'homme d'affaires d'envergure qu'il allait devenir. Booba est un empire dont le pouvoir s'étend bien au-delà des chansons qu'il écrit. Son omniprésence sur les réseaux sociaux et sa maîtrise habile de la communication lui confèrent presque une influence politique. C'est la figure du self-made man par excellence, sans argent et parti de quasiment rien, il a construit un gigantesque royaume. Il est une référence en matière d'écriture et en marketing. Il est de toutes les batailles. Et comment tout ça a été possible ? Parce qu'il y a cru et qu'il n'a jamais lâché. C'est grâce à son ambition, cette ambition entrepreneuriale débordante, qu'il rappe sur ses 10 albums. Celle qui peut sembler bling-bling et surfaite témoigne en réalité d'une énergie créatrice folle qu'il s'entête à nous communiquer. Aujourd'hui, il se retire du devant de la scène. Mais ce n'est que pour mieux tirer les ficelles dans l'ombre et nous envoyer bientôt quelques-uns de ses héritiers à qui peut-être il lèguera le trône. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors merci à tous les contributeurs du Patreon qui soutiennent ce podcast. Vraiment un grand merci à Florent Letourneur, Ingrid Musignato, Mélina Mousseli, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambollet, Stéphanie Comte, Manuel Marie et enfin Fanny Pitoiser-Rizot. Un grand merci.